Ciao à tutti, je suis Cédric Canal, je suis heureux de vous accueillir dans ce podcast double, puisque grande occasion mérite eh bien, de faire les choses en grand. Et du coup, Pronto Calcio et Canal Inter se réunissent pour proposer un débrief du derby de Milan. Générique.
Canal Inter. Le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan. Actualité, histoire, grands entretiens. Au micro, des podcasts et live 100% Nerazzurri, Cédric Canale et Giuliano De Pasquale.
Et avec moi donc Giuliano De Pasquale de Canal Inter. Salut Giu.
Salut Cédric, un plaisir de commenter, de revenir sur ce match gagné très largement par l'Inter. Ça fait plaisir d'en parler. Voilà, j'ai hâte que tout le monde donne son avis.
Et donc, trois personnes de l'équipe de Pronto Calcio. Raphaël Gauthier. Salut Raphaël.
Salut les gars.
Vous l'avez senti à la voix un peu moins enthousiaste par rapport à Giuliano, parce que Milanista, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et puis, deux personnes qui étaient à San Siro également. Pour un, c'est d'ailleurs son premier derby de la Madonnina. On va commencer avec lui. Salut Antoine Aiello.
Bonjour à tous.
Et puis, c'était son deuxième derby de la Madonnina, Nicolas Wagner. Salut Nico.
Ciao à tutti.
On va donc revenir sur ce match. Succès 5-1 de l'Inter. L'Inter qui prend seul la tête de la Serie A, puisque c'était une première, un derby de Milan, entre les deux équipes de Milan co-leaders du championnat. C'était déjà arrivé qu'ils soient à égalité de points, mais pas à la première place. Donc voilà, du coup, l'Inter, en s'imposant, eh bien, se retrouve seul en tête, à 2 points d'avance sur la Juventus, qui de son côté a battu la Lazio dans l'autre choc de cette journée. Mais juste avant, d'ailleurs, puisque Nicolas et Antoine avaient la chance justement d'être au match, on va revenir un petit peu sur l'ambiance, sur comment s'est passé ce samedi après-midi, puisque le match était samedi à 18h. Donc, j'ai commencé avec toi, Nicolas. Tu l'avais vécu il y a de nombreuses années, ce derby de Milan. Là, tu le retrouvais, sans tout dévoiler, tu l'as retrouvé en plus avec ta fille. Donc, voilà, comment tu as vécu ce match et comment tu as vécu l'ambiance?
Eh bien, déjà, c'était oui, un retour après plus de 20 ans à San Siro pour un derby en plus, très grosse ambiance. J'ai offert ce cadeau effectivement à ma fille de lui transmettre cette passion pour le stade de San Siro, qui indépendamment de mes préférences, puisque j'étais quand même relativement neutre dans ce derby, est quand même un super stade qui mérite d'être vécu au moins une fois, je pense, pour tout fan de football et fan de calcio.
Et ben Antoine aussi, pour toi, c'était vraiment le premier derby. Tu connaissais déjà San Siro, mais premier derby, toi aussi, en plus en famille, avec le maillot du Milan. Il faut quand même, voilà, en plus, le courage. Mais bon, ça se passe bien. C'est voilà, c'est pas le derby de Rome, le derby de Milan. Je pense que tu pourras aussi en témoigner. Il y a une bonne ambiance, Antoine.
Oui, c'était le premier derby pour moi et j'étais avec mon petit frère. Donc, juste sa première fois, en effet, à San Siro. Bon, il a commencé fort directement avec un derby, malheureusement, qui n'a pas tourné en la faveur du Milan. Plus, c'est un derby entre gentlemen parce que je pense que les supporters se respectent plus que les joueurs entre des équipes. Donc, notamment, tu pourras en attester quand on est rentré dans le stade avec toi et on a rejoint Nicolas, on marchait en fait au milieu de la cour Vanorme en entendant le bus de l'Inter. Et donc, en fait, il n'y avait rien de violent, il y avait un peu de chambrage, mais c'est pas du tout une ambiance violente comme on peut décrire parfois en Italie. Je pense que c'est un des derbies les plus pacifiques, même si après, quand on commence à faire les tifos, c'est différent.
Avec les Courva qui nous ont fait des beaux tifos, des belles chorégraphies, scénographies. Je ne sais jamais comment on dit en français d'ailleurs, chorégraphie pour traduire, scénographie, chorégraphie, bref. Je pense que vous comprendrez. Alors, on va revenir sur le cirque qu'a été ce match et ce succès. Donc, 5-1. Giuliano, toi, comment tu l'as vécu ce match? Je le disais en introduction, c'était entre les deux leaders de la Serie A, les deux équipes qui avaient très bien commencé la saison. Et donc, on pouvait légitimement s'attendre à un match peut-être plus serré que les trois premiers derbies, les quatre premiers derbies même de l'année 2023, qui avaient tous tourné à l'avantage de l'Inter de façon assez large dans le contenu au moins. Mais on pouvait s'attendre à quelque chose d'autre, surtout avec une équipe du Milan pas mal modifiée.
Oui, mais même l'Inter a une équipe qui est un peu modifiée et on l'a vu aussi niveau tactique dans les premiers matchs où la possession n'est plus la priorité de d'Inzaghi. D'ailleurs, on le voit ici contre le Milan. Niveau possession, on a eu 37% contre 63% du côté de l'AC. Non, ici, c'est une Inter qui a travaillé cet été pour revoir un peu cet aspect tactique. Après, ça a confirmé sur le reste de la saison, mais encore une fois, c'est voilà une Inter qui se préoccupe plus de posséder le ballon à tout prix, qui laisse un peu l'AC Milan, donc l'adversaire jouer et qui peut repartir en contre-attaque ou pas vraiment. C'est pas vraiment des contre-attaques dans le sens où l'équipe est en bloc bas et repart tout le monde à l'unisson. Là, c'est vraiment, on a toujours deux joueurs qui campent un peu sur la ligne défensive adverse et on a ce long ballon qui arrive. Donc, c'est souvent Dumfries ou alors Di Marco sur les ailes. Lautaro et Thuram s'échangent un peu les positions et les rôles pour balancer devant. Donc, on a vu ça a hyper bien fonctionné. Bon, après, il y a aussi, je pense, un peu de réussite sur certains moments, parce que bon, le premier but de Mkhitaryan, c'est un tir raté de Di Marco, ça retombe dans les pattes, mais bon, problème de marquage aussi du Milan, puisque Mkhitaryan est tout seul. Mais bon, sur les 5 buts, c'est une réussite tactique d'Inzaghi, vraiment sur tous les points, et j'ai hâte de voir. Coup, ça va mener l'équipe. C'était Thuram aussi a été incroyable. Mkhitaryan, voilà, on s'attendait
On
pas.
y reviendra sur Mkhitaryan, mais c'est vrai que le débat, ça m'a, c'était assez drôle parce que toute la semaine, c'était, mais on peut pas jouer sans Fratesi, comme si David Fratesi, c'est un très bon joueur, il est rentré, enfin, il a même marqué, mais Henrikh Mkhitaryan, au niveau QI football et au niveau intelligence, pour moi, il est indispensable dans cette équipe. C'est encore un grand match de sa part et il confirme voilà, aussi l'intelligence d'Inzaghi de savoir pointer sur certains joueurs qui deviennent des rouages essentiels.
Oui, c'est ça, comme on l'a vu, il a mis Acerbi alors
Oui.
qu'on aurait pensé qu'il devrait y aller continuer en défense vu son très bon début de championnat. En plus, voilà, De Vrij, c'est pas n'importe qui, il était là avant Acerbi, c'était aussi un pilier de la défense bien avant lui. Donc voilà, Inzaghi a fait des choix, ça se révèle payant. Çalhanoğlu, encore une fois, dans ce nouveau rôle, cette fois-ci fixe, de milieu défensif récupérateur, voilà comme Brozovic avait l'habitude de faire. Mais ici, ça fonctionne super bien. D'ailleurs, je pense que la bataille au milieu, c'est du côté de l'Inter. Enfin, le milieu de l'Inter a tout réussi, quoi. Vraiment tout
Et
réussi. Et je pense que ça a été vraiment déterminant, cette bataille au milieu.
justement, voilà, on va rebondir avec ça, Raphaël. On en a un petit peu parlé en privé après le match, tous ensemble, et tu avais la dent dure un peu sur Stefano Pioli, qui, encore une fois, n'a pas forcément très bien, on va dire, selon moi en tout cas, préparé son derby. On a l'impression qu'il prépare le derby comme un match comme les autres. Il ne fait pas forcément de grands changements. On a vu Calabria avec cette même façon de jouer qu'on a vu en ce début de saison et parfois l'an dernier, comme ça, où il rentre dans la construction en milieu de terrain. Ça n'a pas du tout marché hier. Et en plus, quand tu acquiert en défenseur axe droit, ça peut créer quand même des difficultés. Donc, il y a toutes ces choses-là où, encore une fois, Pioli, on a l'impression, n'a pas forcément bien préparé son coup. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce match du Milan et effectivement au milieu de terrain, ou certes, le milieu de terrain du Milan est aux deux tiers nouveau et dans une organisation nouvelle avec Krunic en regista, mais où ça a pris l'eau, quoi.
Oui, bah écoute, tu l'as déjà un petit peu dit. Effectivement, j'ai un peu la dent dure envers l'entraîneur, puisque en tant que tifoso du Milan, on voit les choses se répéter sans qu'il y ait aucune amélioration, sans qu'il y ait aucune prise en compte des derbies. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Pioli lui-même en conférence de presse qui dit: j'ai pas regardé les anciens derbies pour préparer celui-là. Eh ben, il aurait peut-être dû. Bon, c'est facile à dire a posteriori, mais il aurait peut-être dû, parce qu'en fait, c'est un derby qui ressemble à énormément d'autres. Giuliano, tu dis que l'Inter n'a pas eu la possession et que c'est assez peu commun. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est assez commun dans les derbies que l'Inter laisse la possession. Ils le font très bien, ils savent ce qu'ils font. Ils laissent le ballon à Milan, ils laissent le Milan progresser sur le terrain avec un Inter bloc bas qui sait très bien défendre. Et dès qu'il récupère la balle, c'est les flèches. Alors, par le passé, c'était Lukaku, maintenant c'est Marcus Thuram. Lautaro, quasi numéro 10, qui lui... Il sait très bien où envoyer les ballons. Et puis voilà. Sur les 5 buts, t'en as 3 ou 4 en contre. Allez, 3 en contre, un péno, et puis un but où la défense du Milan est très passive. Donc voilà, la possession, tu la laisses à Milan. Tu sais qu'ils n'en feront rien. Et toi, tu marques en contre. Calabria, effectivement, on peut revenir dessus. C'est un capitaine qui n'a pas vraiment de. Comment dire? C'est un capitaine sans saveur qui sort tout le temps. Tout le temps, moi je regarde tous les matchs et beaucoup regardent tous les matchs du Milan, il sort tout le temps. Pour moi, un capitaine, il sort pas à la 70e à chaque match. Pour moi, un capitaine dans un derby, l'image que j'ai de Calabria, c'est bête, hein, mais la première image quand je pense à lui, c'est un joueur qui sort du terrain sur le banc, qui tape dans une bouteille d'eau. Parce qu'en fait, il est toujours énervé des résultats et de ses prestations. Ah, mais au bout d'un moment, tu es capitaine d'un club comme l'AC Milan, tu n'as pas à être énervé de tes prestations, tu dois bien jouer ou bien être sur le banc puis rentrer de temps en temps. Il est grandement responsable du but de Marcus Thuram sur le 2-0, même si on ne le voit pas dans l'action, il revient 30 secondes après alors que l'action elle est commencée il y a 30 secondes. Ensuite, Kier, il est en un contre un. Bon, c'est dur maintenant pour lui, le pauvre, mais il est en un contre un contre Marcus Thuram. Normalement, si Calabria il revient, il le gêne, Thuram ne peut pas frapper. Enfin, bref. Très très critique donc envers Pioli, envers les joueurs quand même. Hein. Je suis évidemment critique envers les joueurs puisque l'entraîneur il n'est pas sur le terrain avec le ballon dans les pieds. Pour moi, c'est un Milan assez méconnaissable par rapport au début de saison. On aurait dit un petit peu le Milan de l'an dernier, sans trop d'idées, en jouant un petit peu sur les exploits individuels. D'ailleurs, il y en a quand même eu un petit avec le but de Rafa, puisque la passe de Giroud est assez lumineuse. Après, Rafa, il en a contre un, il marque. Mais il n'y a pas eu beaucoup de choses, en fait. Et c'est assez méconnaissable parce que depuis le début de saison, Milan avait été très dominant, que ce soit dans les actions, que ce soit très tranchant, assez efficace. Et là, hier, on n'a rien vu de tout ça. Pulisic, Reinders, Loftus-Cheek, très invisible. Alors que Pulisic, sur les 3 premiers matchs, il avait été élu deux fois homme du match. Donc voilà. Moi, ce que je pourrais retenir, c'est que c'est un Milan méconnaissable, un Inter très reconnaissable. Mais alors, c'est un Inter qui est, mais que l'on connaît, et moi, je suis même pas supporter de l'Inter, mais je sais exactement comment l'Inter joue contre Milan. Et c'est hier ce qui s'est exactement passé. Bon, ben voilà, écoute, peut-être que Pioli a été surpris de comment a joué l'Inter. En tout cas, je pense pas que Antoine ni moi ne l'avons été.
Alors justement, Antoine, on va rebondir avec toi là-dessus. Ce qui est assez aussi courant dans les derbies, dans les derniers derbies, c'est que l'Inter marque tôt, ce qui explique aussi pourquoi l'Inter derrière a moins la possession, laisse le ballon, défend bas, sans concéder, et le fait très bien, comme disait Raphaël, mais c'est aussi parce que l'Inter, à chaque fois, marque tôt. Il y avait eu en Ligue des Champions le but au bout de 7 minutes de Mkhitaryan. Cette fois-ci, c'est à la 4e minute, première occasion but. Et je sais pas comment tu l'as vécu depuis le stade, mais on a quand même senti une équipe du Milan qui, sur le coup, a eu un peu de mal à réagir. Il a fallu un peu de temps. On a senti les joueurs, peut-être un peu ben, ceux qui étaient là l'an dernier, ont sûrement dû se dire ça n'a pas recommencé quand même. Il y a peut-être eu ça aussi, ce côté. Enfin voilà, comment tu l'as vécu, toi? Et qu'est-ce que tu en penses?
En fait, je pense que là, on fait le procès de Pioli, c'est que, enfin, en fait, les joueurs du Milan, ils viennent jouer en ayant peur de l'Inter, alors que l'Inter peut être plus forte parce que finalement, ce mode de jeu est le même depuis que Conte a pris l'équipe en main il y a 4 ans. Mais en fait, il y a un ascendant psychologique qui est violent et qui est en train de s'accentuer parce que déjà, tu partais de 4 derbies perdus et là, tu joues le cinquième et t'en prends cinq. Donc, on le sentait, ils étaient apeurés. Et surtout, on sent que c'est une équipe qui est jeune dans certains aspects. C'est que, ouais, il y a 2-0, etc. Mais tu peux réagir. Surtout que le but de l'Inter, il arrive sur la première occasion. Finalement, l'Inter, regarde les statistiques, c'est 7 tirs, 5 buts. Donc, ils ont été cliniques. Ils ont juste profité de notre faiblesse psychologique, de la faiblesse de certains joueurs. Moi, ce que j'en pense du stade, bah, moi, nous, étions vraiment à 20 mètres. On ressentait vraiment l'ascendant physique et psychologique, c'était criant. Déjà, tu commences le match, premier ballon sur l'engagement du Milan, 20 secondes de jeu, t'as Barella qui rentre le coude dans Théo. Donc, en fait, au moins, eux, ils vont par pas. Hein. On peut dire ce qu'on veut de l'Inter, mais au moins, eux, ils y vont, quoi. Ils voulaient gagner le derby. Donc, on peut faire le procès de Pioli et des joueurs, mais après, il faut se dire que l'Inter était plus forte. Pas non plus, Après, pour moi, le score ne fait pas du tout le match, parce que c'est ça qui est assez marrant, c'est que finalement, c'est une grosse défaite. Mais c'était pas le plus mauvais contenu du Milan et peut-être pas le meilleur de l'Inter. Je trouve l'Inter, par exemple, beaucoup plus forte en Ligue des Champions, dans la domination et dans les occasions que dans ce match-là. Mais en fait, le Milan a lâché. À 3-1, ils ont lâché. Quand il y a 2-1, on sentait qu'ils pouvaient faire quelque chose. Et d'ailleurs, il y a une énorme occasion de Reinders qui part avec Rafa sur le côté et Rafa la joue super mal. Mais en fait, tu sens qu'au 3-1, C'est terminé. Il manque des leaders psychologiques. Il manque des mecs qui diraient aux jeunes, les gars, c'est pas fini. On peut retourner le match. C'est pas terminé. En fait, on le voit pas, quoi. On le ressent pas. Et c'est ça, je pense, qui pêche dans ces matchs-là.
Et
Et
le Milan a quand même mis un but, hein. C'est mieux que les autres fois. Donc c'est un peu mieux, quoi.
voilà.
Ils ont fait un peu mieux.
Ouais. Bon, c'est sûr, c'est un peu mieux. On verra au mois d'avril, après.
Et c'est intéressant, Antoine, que tu parles de Léo, parce que justement, hier soir, j'ai vu sur DAZN, qui était le diffuseur du match en Italie, une caméra isolée sur Léo, sur le 3-1, où il pète complètement les plombs au début. Il dit des gros mots en portugais et tout, il est vraiment énervé. Enfin voilà, puis plus les secondes passent avant que le jeu reprenne, et plus en fait, commence à baisser la tête. Et il va se replacer, mais vraiment mal. Et tu sens qu'en fait, oui, effectivement, à ce moment-là, le match est terminé dans sa tête. Il se dit, c'est mort, quoi.
Si je peux me permettre, nous qui étions au stade et on était du côté où en fait on était du côté où Milan attaquait en première mi-temps. En fait, Léao était sur le côté gauche, était juste devant nous. Vous le voyez vraiment devant. Avec tout le respect pour Darmian, qui d'ailleurs, je rappelle, était formé au Milan. Il n'a jamais été servi en fait là où l'Inter prenait nos défenseurs en un contre un, parce que Pioli, il n'a toujours pas compris que contre les grandes équipes, tu peux pas jouer à 70 mètres de tes buts. Et créer le 1 contre 1, le duel. C'est impossible, faut défendre en bloc. Comme disait Raphaël, il fallait que certains reviennent. En revanche, nous, quand l'Inter était plus devant, Léao, mais je sais pas, Meillant, tu sais dégager au pied. Tente, Giroud, tu sais faire la déviation, donnez-lui pour qu'il tente. Léao n'a pas eu, en fait, à dribbler. La seule fois où il a dribblé, il est passé. On n'a jamais tenté le 1 contre 1. Léao, c'est son jeu. Donc, il était frustré, ça se voyait. D'ailleurs, quand Fratesi a fait son cinéma avec le 4 comme ça à Krunic, c'est Léao qui a été tout de suite l'attraper. Parce que le gamin, il a pété les plombs. Et pourtant, là-haut, c'est pas un mec nerveux. Il n'est pas réputé pour être un joueur violent ou nerveux. Au contraire, il est assez souriant, etc. Mais oui, ça se voyait qu'il a à la fin, il a pété une durite. Parce que, je le répète, si on prend les joueurs intrinsèquement un par un, à part peut-être Lautaro qui est meilleur que Giroud, je trouve pas qu'il y a une différence abyssale entre les joueurs. Sauf que l'Inter, ils jouent en équipe et ils savent gérer leur match, pas nous.
D'ailleurs, on en avait parlé aussi en privé où j'ai demandé vos équipes, vos 11. C'est vrai que c'était où c'était, il y avait une belle mixité des deux équipes. Donc, c'est vrai que quand on regarde les noms, forcément une grosse différence. On va passer à toi, Nicolas, sur ce derby de nous tous. Tu es celui qui est le plus neutre, tu le disais en présentation. Donc, voilà, la parole est à toi.
Oui, alors moi je suis d'accord un peu avec tout ce qui a été dit auparavant. Par contre, je voudrais souligner les faillites individuelles de certains joueurs du Milan, notamment Malik Thiaw, qui est vraiment passé à côté de son match. C'est vrai que le carton jaune qu'il prend assez rapidement peut-être le déstabilise et ne lui permet pas de défendre comme il aurait voulu sur Thuram, qui après a certainement joué de cette ascendance-là. On parlait là à l'instant de Leao et pour moi c'est un des leaders du Milan et justement son body language, son attitude, c'est ce qui me fait penser que c'est peut-être un des leaders techniques mais ça sera jamais vraiment un leader charismatique. Et vous parliez des leaders qui auraient dû insuffler peut-être un sentiment de révolte. Moi je pense que ce rôle-là doit être utilisé par Giroud et parce que c'est quand même lui le doyen de l'équipe et pour le coup on n'a pas senti chez lui ce sentiment-là de révolte. Il fait une belle passe, ça sauve son match je pense parce que avant ça a été quand même assez compliqué comme l'illustre son très beau coup franc en première mi-temps où il a arrosé le Primo Anello Verde. Mais voilà, je pense que ce qui a surtout manqué à Milan pour cette rencontre-là, c'est la faillite des individualités.
Raphaël, tu voulais rebondir et ensuite, Giuliano, justement, on repassera sur un thème
Ouais,
Inter.
bah, il y a pas mal de choses sur lesquelles je voulais rebondir. Bah, déjà, dans ce qui vient d'être dit, moi je trouve que c'est assez dur pour Giroud, puisque déjà, il sort en cours de match, donc il sort en fin de match. Tu ne peux pas lui demander sur le banc de faire le boulot d'un leader sur le terrain. Ensuite, ça a été peut-être l'un des moins
Après, Raphaël,
mauvais côtés
il
du match.
a quand même joué un certain temps et avant tout pendant sa présence sur le terrain, j'ai pas vraiment senti qu'il pouvait insuffler quelque chose. Ça passe, c'est bien, d'accord, mais c'est
Oui,
sur ce
non,
genre de
mais
match.
Moi, j'en attends plus aussi, et je vais pas défendre Giroud plus que les autres. Simplement, moi, je trouve qu'il y en a. Si je devais en descendre certains, je n'irais pas sur Giroud tout de suite. Après, quand tu parles d'absence de leader, je te suis complètement. Le body language de Rafa, qu'on soit à San Siro, moi, j'y suis allé plusieurs fois, dont une fois il y a un mois, évidemment, tu le vois à l'échauffement que Rafa, il a un body language assez peu sérieux, assez peu une âme de leader. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et ça se confirme sur le terrain. Dès que Milan est en mauvaise posture, c'est pas trop Rafa qui va sortir ses coéquipiers de là. Évidemment, il manque un leader, il manque un Ibrahimovic, il manque
Il
un
manque
peut-être
Tonali.
un Tonali. Et voilà, tu vois, on le dit en même temps, il manque un Tonali qui aboie, qui va courir, qui lui va être touché par le fait de prendre 3 buts par l'Inter, puis après 5. Donc effectivement,
Il
il manque
revient
des leaders. Après,
mercredi. Il revient mercredi, c'est vous allez
non,
pouvoir le
il
voir.
voilà. Il reviendra en tribune, il reviendra en tribune et peut-être qu'il exultera sur le but de Rafa, donc on verra encore. Mais par rapport au leader, il manque des joueurs. Après, et c'est pas du tout une excuse, mais il manquait aussi Tomori, il manquait Bennacer. Je pense que c'est des joueurs importants pour le 11 du Milan, pour l'entraîneur. Et peut-être qu'il manquait aussi ces joueurs-là pour insuffler quelque chose. Après, pour revenir sur ce qui a été dit encore précédemment, et je fais assez court, Inzaghi, il a une supériorité total sur Pioli. Il a une supériorité tactique, voilà, c'est indéniable. Il a une supériorité psychologique. Il arrive sur le terrain en étant supérieur à Pioli et en sachant que le match va normalement bien tourner pour lui. Pioli, il a une espèce de d'infériorité, d'un complexe. J'ai l'impression, même en conférence de presse, il est assez brouillon. Non, je prépare pas les matchs en regardant les précédents. À la fin du match, les phrases sont lunaires. Je vous conseille à tous d'aller les voir.
Les 4 minutes, on a eu le ballon, les 4 premières minutes, celle-là, quand même, elle est assez horrible. Franchement,
Non,
c'est.
mais, et c'est ça parmi d'autres, hein, et c'est une phrase parmi d'autres. Mais oui, en fait, Inzaghi, il sait comment préparer ses derbies, je l'ai dit tout à l'heure. Il a une supériorité, que ce soit tactique ou psychologique. Et puis voilà, c'est compliqué pour Milan, c'est compliqué pour. Comme tu dis, il y a une faillite individuelle qui est incroyablement présente dans ce match côté Milan. Quasi personne n'a été bon. Moi, je retiendrai peut-être, allez, Rafa et Giroud, parce que c'est eux qui sont décisifs sur le but, parce qu'on les a vus un petit peu. Théo, il n'a pas été bon, même si pour moi, il y a un gros, gros, gros tampon de Dumfries sur le premier but. Ça n'enlève rien sur le reste des buts et sur la victoire de l'Inter qui l'a mérité. Simplement, le premier but, pour moi, si on revient à la VAR, il y a peut-être quelque chose.
Il y a
Mais
VAR, hein,
Théo n'a
sur le
pas
premier
été
but.
bon. Il y
Il
a
y a
VAR sur le
VAR.
premier but. Après, voilà. Bon, après, c'est de l'interprétation. Vous avez vu les images. Pour moi, il y a un gros tampon hors du jeu qui peut être sifflé. Mais voilà, Théo, Thio, Calabria, j'en parle pas. Loftus-Cheek, Reinders, on les a peu vus. Alors que Loftus-Cheek, il est censé apporter son physique. Il l'a dit encore dans la Gazzetta cette semaine. Il a dit, moi, je suis censé apporter ma dimension physique. Il aurait dû rentrer dans Barella. Il aurait dû rentrer dans Çalhanoğlu. On l'a pas vu du tout. Pulisic, il a été très bien pris. Après, je vais pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais il a été très bien pris défensivement. Donc c'est compliqué quand tu as autant de joueurs qui défensivement, qui individuellement sont pas très bons. Bah, c'est dur de faire quoi que ce soit, quoi. Donc voilà.
Giuliano, Raphaël disait du côté du Milan, pas grand monde a été, on va dire, était au-dessus de la moyenne, a été bon. Du côté de l'Inter, c'était un peu le contraire. C'est vrai que quand on regarde, alors c'était Çalhanoğlu qui était l'homme du match. J'ai eu un petit peu de mal. Alors bon, c'est les prix individuels votés par les supporters. Voilà, on prend la valeur qu'on veut. Moi, j'aurais plutôt mis un Mkhitaryan ou un Thuram, mais en tout cas, c'est là, au contraire, il y a eu une vraie force collective pour le coup.
Oui, c'est ça. On a vu toute la tactique d'Inzaghi qui, je pense, était sublimée. Et là, parce que ça a très bien fonctionné, aussi peut-être par le fait que bah, Pioli a peut-être moins bien préparé. Et aussi, il y a eu des erreurs individuelles. Mais après, il n'y a pas eu que du bon du côté de l'Inter. Et c'est vrai que le score est un peu forcé vu le contenu. Mais par exemple, Darmian, moi, j'ai pas trouvé qu'il a fait un match si excellent que ça. Je pense que deux ou trois fois, il laisse passer Léo et une fois, ça fait but. C'est juste que Léo rate son contrôle. Je pense que sur l'incursion de Théo, où il croise sa frappe de trop, c'est aussi pour la pomme de Darmian.
Alors moi, je la mettrais plutôt sur d'autres joueurs, parce que Darmian, il en fait une action. Tu vois, je mettrais plus, je crois, c'est
Ouais.
Çalhanoğlu qui le laisse passer, parce que Darmian, il a la fin, et s'il intervient, il y a péno, donc, parce qu'on
Ok,
connaît
ça
Théo.
revoit. Ouais. Enfin voilà, en tout cas, moi j'ai trouvé que Darmian sur l'ensemble du match, il a pas été dégueulasse hein, du tout. C'est juste que voilà, c'est celui qui était un peu en dessous. Et c'est sûr que quand on tient Léao, bah il faut être concentré du début à la fin parce que c'est le meilleur joueur du Milan, un des meilleurs d'Italie, et il faut pas lui donner la moindre occasion. Ensuite, c'est vrai que voilà, niveau organisation défensive, j'ai trouvé ça très bien. Dumfries a confirmé son excellent début de saison. Il a bien bataillé avec Théo. Moi, j'ai pas trouvé que Théo était si mauvais que ça. Il a créé quelques occasions, des centres, des incursions. Donc, j'ai trouvé que c'était pas mal. Mais voilà, Dumfries, à mon avis, il sent le souffle chaud de Cuadrado dans son cou et il dit, waouh, j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Donc, il se donne à fond. Et est-ce que une dernière chose de ce que je retiens de ce match, c'est vraiment Thuram qui monte en puissance. Qui marque son deuxième but de la saison et directement là, donc son deuxième but, c'est dans un derby. C'est seulement le deuxième Français qui marque dans un derby du côté de l'Inter. Le premier, c'était Djorkaeff. Donc, faut se dire, après l'Inter n'a pas eu énormément de Français, mais voilà, il faut remonter jusqu'à Djorkaeff pour retrouver ça. Je dis pas énormément de Français qui ont compté, hein, que
Oui, parce qu'il y a pas
voilà.
mal de. Oui, il y a eu l'époque Jérémy Bréchet, Sylvestre, Dabo, où il y a eu des Français, mais qui n'ont pas forcément compté. Mais voilà, ceux qui ont compté, il y a
Voilà, c'est
Pelé,
ça.
bien sûr.
Ceux qui étaient vraiment dans le 11 titulaire. Donc, voilà, Thuram, c'est une grosse surprise. Et voilà, c'est marrant aussi. Après, on chambre parce que c'est un derby, mais c'est marrant de voir tous les commentaires des Milanistes sur Twitter qui étaient contents de ne pas le prendre cet été et qui maintenant subissent un goal de lui. Voilà, c'est un peu rigolo de ce côté-là. Et c'est sûr que c'est en plus un derby qui va rester dans les annales parce que 5-1 comme ça, 5 derbies de suite aussi. J'ai cru lire que c'était un record.
Ouais, alors c'est un
5.
record pour l'Inter, 5 de suite. Milan a déjà fait 6. En revanche, pour le même entraîneur, c'est un record. Donc Inzaghi rentre dans l'histoire des derbies pour avoir gagné 5 derbies de suite. Et du coup, l'Inter pourrait aller chercher égaler le record peut-être en avril prochain. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
Ouais, c'est loin. Ou sauf s'il y a Coupe d'Italie entre-temps.
Oui, c'est vrai.
Alors après, personnellement, je suis plutôt content du mercato du Milan. Et si j'étais supporter de l'Inter, je ne m'en ferais pas forcément. Je dirais pas pareil parce qu'on va voir, la saison est longue. Pavard à ce prix-là, Sommer à cet âge-là, Thuram, c'est sans doute un bon coup. Après, moi, j'ai pas trop vu des supporters du Milan heureux ou allumer des fumées pour la venue de Thuram à Milan, à l'Inter. Moi, ce que je vois plutôt, c'est que Milan a fait un bon mercato assez intelligent, a bien redistribué l'argent récupéré par Tonali, et la saison est longue, donc on verra. On est le 18 septembre.
Et le derby arrive un peu tôt, parce que je ne sais pas si, avec un peu plus de cohésion d'équipe et plus de choses, je ne sais pas si ça serait terminé exactement comme ça. On peut dire ce qu'on veut. L'Inter, à part Thuram, sur ce match-là, les autres joueurs, c'était que des joueurs qui jouaient l'année dernière. Bon, moi aussi, je préfère largement le mercato du Milan que celui de l'Inter, où on prend des mecs de 35 ans, des fins de contrat, 50 de prêt. Alors, au mois de juin,
T'as
l'Inter,
oublié Frattesi,
joueurs.
Antoine, qui
Non, mais
rentre en jeu,
Frattesi, il est 4.
Frattesi. Hein. Rentre en
Non,
jeu.
mais ouais, celui qui fait 4. Mais c'est normal, il faut qu'il se fasse apprécier par la courva comme Çalhanoğlu. Il y a 2 ans, il y a 1 an, il était pour la Roma. Maintenant, son cœur a basculé. Mais ça arrive, hein.
Et
L'amour n'a
qu'il
pas de couleur.
essaye de prendre la place de Mickey avant de commencer à
De
chambrer, qui serait
Mickey
titulaire, parce que bon.
et de Barella, parce que mine de rien, il y a 35 ans, il a pris le foot. Il a pris le foot à pas mal de joueurs. À beaucoup de joueurs même. Donc, ça, c'est une autre histoire. Mais comme tu disais toi, Raphaël, moi, je suis pas inquiet. J'espère qu'ils vont vite réagir mardi. Après, comme je dis, perdre pour moi, c'est pas un complexe. Le problème, c'est de perdre. C'est le score
Ben, c'est le score et la série, quoi. C'est perdre
qui
5-1,
c'est
un
ça, qui est
cinquième derby de
décourageant.
suite, ça devient très
Moi,
pesant.
je suis inquiet de deux choses. Moi, si je peux me permettre, Antoine, côté Milan, je suis inquiet de deux choses. La première, c'est du niveau de Milan dans les grands matchs. Pour l'instant, depuis le début de saison, Milan n'a pas eu de gros matchs. La Roma, ce n'était pas un gros match pour moi. Et d'ailleurs, je l'avais dit dans le podcast après cette journée-là, j'avais dit le premier test, ce sera l'Inter. La Roma, du début de saison, ce n'était pas grand-chose, avec tout
Bien
le
sûr.
respect.
Mais voilà, donc un peu inquiet de ce premier gros match perdu, un peu inquiet deuxièmement sur les derbies, parce que bon, au bout d'un moment, quand t'es tifoso du Milan, même si
Ça
c'est
fait
qu'un
chier,
match et que c'est que trois
ça fait
points,
chier.
ça fait chier, quoi. Voilà, ça fait chier. Et du coup, je suis quand même inquiet parce que certes, le prochain derby, normalement, c'est au mois d'avril, s'il n'y a pas de confrontation avant. Mais voilà, on va arriver au mois d'avril en se disant combien on va en prendre. Bon,
Non,
c'est quand
bah
même bien, bien, bien relou, quoi.
moi je pense que la série là qui est là, bah, du coup là on est à 5-1 sur les avec 5 matchs d'affilée. Je mettrai ma pièce que comme ils vont arriver le couteau entre les dents, parce que je pense que au niveau de l'orgueil et de l'ego pour des professionnels, parce que même s'ils sont pros, qu'on dit qu'ils passent vite au match d'après, etc. Moi j'y crois pas du tout. Moi je
Et
pense qu'il va
pour
en
avoir été en dessous de la curva milaniste, je peux vous assurer que eux, ça les faisait plus que chier. Parce qu'ils se sont bien fait chambrer par les copains du premier Anello, là, qui était descendu à l'occasion du derby d'un étage. On voyait bien qu'ils étaient vraiment pas très heureux de la tournure des événements.
D'ailleurs, si les joueurs ont lâché dans le dernier quart d'heure, la Courvoisine n'a pas lâché, elle a continué à chanter, à essayer comment dire, de répondre au stade,
Bien
parce que le
sûr.
stade était à 70-75% intéristes, donc eux, en tout cas, n'ont pas lâché.
Ce qui est totalement normal et ce qui est juste la base pour une courba ultra. Je veux dire, lâcher, ne pas lâcher dans un derby, c'est normal. En revanche, si on parle rapidement de la courba Soud, et voilà, je suis pas ultra du Milan et j'ai pas des indiscrétions de ce côté-là, mais j'ai l'impression d'un point de vue extérieur qu'ils sont pour le moment assez complaisants envers le club, envers l'entraîneur, envers les joueurs. Et où, après 5 derbies et après une série comme ça de derbies ratés, la Courvasoud est très très gentille. Je ne sais pas ce qu'elle va faire cette semaine, sans doute rien, mais je la trouve très très gentille.
Je pense qu'il faut rien parce qu'on a le match mardi. S'il y avait une semaine avant le match, je pense que c'est contre Vérone dimanche.
Ouais.
Je sais pas s'ils auraient fait beaucoup de choses, mais je pense qu'il y aurait quand même eu. D'ailleurs, on sait qu'à l'entraînement dimanche matin, à Vianello, on a eu la présence de Moncada. On a eu dans les vestiaires après le match la présence de Forlani et de Moncada quand même. Il n'y a pas eu de grande réprimande, c'est quand même de mobiliser
Ouais,
les joueurs. Mais bon,
non, mais tu
après.
vois, une phrase comme Pioli qui dit c'était quasi un match comme les autres, on verra mardi et on verra samedi prochain contre Vérone. Je suis désolé, moi je suis dans la Courvasoud, je dis à mes potes, les gars, on fait une banderole, on la montre à Pioli, on lui dit que ça, ce match perdu, c'était pas un match comme les autres. Un 5-1 perdu, c'est pas un match comme les autres. Je suis pas certain que la Courvasoud des années 2000, elle se soit comportée à l'époque comme elle se comporterait aujourd'hui.
Il a un totem parce qu'il a gagné en
Ouais,
2022 et
mais
parce
bon.
qu'on a sauf que là il a grillé des cartouches et on sait très bien que de toute façon si il redresse pas la
Ça peut
barre
vite.
rapidement,
Voilà,
il peut
ça
vite
peut
être
vite mal
licencié, hein,
tourner,
c'est
hein.
il peut vite être licencié. Après, n'oublions pas
Tu vois,
qu'on
c'est
est
mal
quand on est
tourné pour
trois
lui, hein.
victoires quand on est trois victoires enfin si on s'était pris déjà des bouillons pour les matchs, on a quand même montré des bonnes choses. Ça, c'est le côté très versatile du football, très la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, etc. C'est pour ça aujourd'hui, Inzaghi, c'est meilleur coach d'Europe. C'est ça y est, machin, etc. On verra aussi. Lui aussi, il a ses moments de crise. Il a été aussi l'année dernière à 2 doigts de se faire virer. Il faut quand même se avancer là-dedans. Voilà, il faut passer à autre chose. Maintenant, moi, ce qui me la défaite, c'est une chose, on l'accepte. Maintenant, nous, ce qu'on veut voir, je pense, nous qui aimons le Milan et en tant que supporter, même en tant que personne qui analyse le football, c'est voir la capacité de cette équipe à réagir. Donc, on verra mardi, on verra dimanche quel visage ils vont montrer, parce qu'au final, l'Inter était quand même plus forte. Après, c'est la manière qu'on conteste. Maintenant, il faut réagir. Il va falloir montrer que, parce que Newcastle est à portée de main, on est à San Siro, on a 2 matchs à la maison. Il va falloir, ça y est, il va falloir un peu m'en
Ouais.
sortir un peu les attributs, quoi.
Ça c'est sûr. Après, les équipes anglaises réussissent pas des masses à Milan et ça fait au moins 15 ans que ça dure. Hein.
Thuram va dentro, la spaccata, ancora Thuram, guadagna il fondo, il cross di Marco, carica il sinistro, il tiro, è gol, 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 Mkhitaryan, 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 titolo in vantaggio al minuto 5. Lautaro, il controllo in campo aperto, se ne va Dumfries, c'è Thuram all'interno dell'area, è lunga, peccato. Attenzione Tutu che però controlla, va l'uno contro uno con Ciao, lo punta, carica il destro, è gol, 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 tu, 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 tu.
Et vous avez reconnu sa voix, bien sûr, la voix inimitable, la voix de l'Inter, Roberto Scarpini, voix d'Inter TV. Et vous pouvez aussi retrouver d'ailleurs les résumés des matchs sur la chaîne YouTube de l'Inter. Voilà pour faire la transition entre le podcast Come Pronto Calcio et la version 100% Canal Inter. Pour en remercier encore Antoine Aiello, Nicolas Wagner et Raphaël Gauthier. Et nous, Giuliano, on va terminer ce podcast dans la partie 100% Canal Inter en se projetant sur la suite. Début de saison parfait de l'Inter, effectivement. Mais bon, on regarde le calendrier, on commence à se dire... Oh, c'est pas si compliqué que ça, et compagnie. Donc, on sait qu'il va forcément y avoir un problème à un moment donné. C'est l'Inter, on le sait. Donc, selon toi, où est-ce que l'invincibilité de l'Inter va s'arrêter? Est-ce que ce sera ce mercredi à Ligue des Champions? Comme ça, j'en profite aussi pour vous donner le calendrier des prochains matchs de l'Inter. Il y a donc ce mercredi le match en ce 20 septembre sur la pelouse de la Real Sociedad à Ligue des Champions. Ensuite, le dimanche 24 septembre à 12h30, déplacement à Empoli. Mercredi 27 septembre, réception de Sassuolo. Puis, déplacement à la Salernitana le samedi 30 septembre. Je prolonge légèrement sur début octobre avec Inter-Benfica le 3 octobre en Ligue des Champions. Puis Inter-Bologne le 7 octobre. Donc, et ensuite, on sera à la trêve internationale. Giuliano, je t'écoute.
Déjà, quand on voit le calendrier, c'est pas mal. On affronte quand même des équipes qui sont à notre portée. Donc, quand on voit le début de saison... on pourrait légitimement se dire ça devrait aller, il y a moyen de prendre encore plus d'avance dans les semaines qui arrivent jusque début octobre. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on parle de l'Inter et que l'Inter ne fait jamais ce qu'on attend d'elle. Et donc, je pense, allez, il y a ce match contre le Real Sociedad, je pense que là, on devrait gagner. Par contre, le match contre l'Empoli un dimanche à midi et demi, ça pue, comme à chaque fois. Donc, je pense que là, on va se faire accrocher au moins. Il y a moyen qu'on galère aussi contre Sassuolo avant de se reprendre contre la Salernitana. Et bon, Benfica, il faudra voir la forme du moment. Ouais, un calendrier accessible, mais je suis sûr qu'il va y avoir un piège dedans. Donc, je suis prêt à parier qu'on ne va pas faire mieux qu'un 9 sur 12 prochainement en championnat, quoi.
Oui, surtout que tu le disais, c'est vrai que les matchs, en plus les matchs à 12h30 à l'extérieur, souvent l'Inter, il y a des mauvais souvenirs. Moi, je me souviens l'an dernier contre Udinese, par exemple, il y a eu ce 3-1 catastrophique avec, je crois, c'est Bastoni et Mkhitaryan qui prennent des cartons jaunes, qui sortent au bout d'une demi-heure. Enfin, il n'y a rien qui allait dans ce match. C'était assez tragique. Et voilà, c'est vrai que après ce groupe, on va voir si ça se confirme, mais ce groupe de joueurs, on a l'impression qu'il y a vraiment une maturité qui a été obtenue par rapport à l'an dernier. On l'a vu sur les premiers matchs de la saison où il lâche vraiment rien. Donc on verra si ce derby gagné assez largement, on en a parlé dans la première partie, servira de donner encore plus de confiance ou pourra créer peut-être un petit peu un relâchement. Mais en tout cas, Giuliano, ce qui va être bien aussi, c'est qu'enfin, parce que là, depuis le début de la saison, c'est toujours le même groupe qui joue. De joueurs, c'est le même 11 qui est aligné par Simone Inzaghi à chaque match. On va voir Benjamin Pavard commencer, on va voir Davide Fratesi avoir sa première titularisation, on va sûrement voir aussi Carlos Augusto à gauche avoir sa première titularisation, Arnautovic aussi devant. C'est ça qui va être intéressant, c'est on va voir si cette profondeur de banc qu'on voit sur les fins de match peut aussi marcher en début de match.
Ouais, c'est ça. J'ai lu d'ailleurs ce matin que contre Empoli, on devrait donc voir des nouveaux noms titulaires. Ça va être intéressant de voir dans le sens inverse par rapport à ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc avec les titulaires qui font très bien le taf, les remplaçants qui font eux aussi très bien le taf quand ils rentrent. Ici, je suis curieux de voir Pratesi dès la première minute, ce qu'il peut apporter. Et surtout, très curieux de voir Benjamin Pavard. Voilà, moi je connais pas plus que ça. En plus, je suis belge, donc je regarde pas les matchs de l'équipe de France. Je sais pas exactement ce qu'il vaut. J'ai juste entendu beaucoup d'avis sur lui, mais je suis vraiment très curieux de voir ce que ça a donné. Et en plus, dans le système d'Inzaghi, où il va jouer défenseur central et on va voir comment il va apporter sa touche offensive. Donc ouais, ça va être très intéressant. Carlos Augusto, moi, je pense qu'il va faire autant de bien que, que Di Marco, parce que l'année passée à Monza, je l'ai suivi un petit peu et il était très bon. Et Arnautovic qui commence déjà un peu à ouvrir sa bouche et à faire comprendre qu'il veut être titulaire, bah on va voir hein, s'il est titulaire contre Empoli, il faudra assumer. Puis Sanchez, je ne sais pas où ça en est, sa blessure.
Alors, il était sur le banc lors du derby. Donc, voilà, il était dispo sur le deuxième match de sélection. Donc, il a joué avec le deuxième match de la sélection. Donc, c'était surtout, a priori, alors on ne sait pas si c'est anémie ou pas. C'est parce qu'il a le secret médical. Mais a priori, il y avait au niveau des résultats des examens, des petits trucs un peu comme ça. Et ce n'est pas nouveau. Donc, on verra. Mais a priori, il sera disponible aussi pour les prochains matchs. Mais bon, c'est vrai que lui aussi, il va forcément ajouter de la concurrence. Klaassen, qui n'a pas encore joué non plus. Donc,
Ouais,
c'est vrai que.
Bissek, hein.
Bissek qui a
Bissek.
joué seulement un quart d'heure contre Monza et j'ai peur pour lui qu'il ait peu d'espace parce qu'on a encore vu, tu vois, c'est Acerbi qui est passé central gauche sur la fin de match et ce sera sûrement ce que fera Inzaghi régulièrement, voire mettre Darmian axial gauche quand il y aura besoin. Donc j'ai un peu peur pour Bissek, mais bon, on verra.
Ça va être l'Aslani de la défense, quoi.
C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, c'est intéressant qu'il va centrer Aslani, Inzaghi, plutôt qu'un Klaassen ou un Sens, tu vois, sur la dernière minute du derby. Qu'il fasse ce choix-là de mettre le jeune pour lui donner 10 minutes comme ça, c'est voilà, c'était intéressant à
C'est
suivre.
juste parce que Klaassen n'est pas prêt physiquement, sinon ça aurait été le vieux avant le jeune, je
C'est possible. On
pense.
verra, on en reparlera dans les prochains épisodes. Nous, on va donc conclure cet épisode spécial Derby de Milan, je vous le rappelle, gagné 5 buts à 1 par l'Inter. C'est beau à dire. Vas-y, essaye de nouveau.
5 buts à 1, oh,
C'est
c'est
pas mal, hein?
pas mal.
Et 12-1 sur l'année 2023, on le rappelle ça aussi. C'est pas mal.
C'est un massacre.
Oui.
Un vrai massacre. Je ne sais pas jusqu'où on ira, mais c'est incroyable.
On verra en avril. Peut-être qu'en avril, on se prendra le retour du bateau. On verra s'il y aura le derby retour. En avril, il y aura peut-être des derbies aussi en Coupe d'Italie, demi-finale. Il y aura peut-être des derbies en Ligue des Champions. Qui sait? On verra. En tout cas, pour nous, c'est terminé. Juliano, merci beaucoup.
Merci à toi, Cédric, et à la prochaine pour nous, et bonne chance pour la suite du championnat, parce que n'oubliez pas, il faut pas se voir trop beau, faut garder en tête que c'est l'Inter et que c'est une équipe qui sait décevoir plus que l'inverse. Voilà.
Et nous, on se quitte avec un générique de Gianni Rossi pour la voix off. Un générique qui est un petit peu mis à jour en quelque sorte. On espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous le dire. Et ciao, ciao!
Ciao.
C'était Canal Inter avec Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Et pour toutes les coulisses depuis Milan, suivez-les sur Twitter et Instagram. Alla prossima, fratelli nell'Azzurri.